Vous écoutez, on lit pour vous.
Le Québec est-il prêt pour l'Épocalypse de 2038? Un texte d'Alain McKenna, paru le 22 avril 2026 dans la presse. Les informaticiens l'ont déjà surnommé Épocalypse. La quoi? L'année 2038. En raison du vieillissement de certains systèmes informatiques qui reposent sur un calcul du temps limité, le risque est réel qu'on revive le bug de l'an 2000 38 ans plus tard. Ceux qui en disent long sur la façon dont l'entretien de technologies cruciales au bon fonctionnement d'à peu près toute la société est parfois négligé. C'est le même bug que celui de l'an 2000, explique le professeur de génie logiciel de l'Université de Montréal, Benoît Baudry. Donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, sauf là où de vieux systèmes sont encore en place, comme dans les hôpitaux, certains établissements du secteur de l'énergie, partout où les ordinateurs ne sont pas changés très souvent. À très exactement 3h14:18 en temps universel UTC, le 19 janvier 2038 au matin, pourrait avoir lieu ce bug de l'an 2038. À ce moment, les horloges qui calculent l'heure selon le temps écoulé en secondes depuis le 1er janvier 1970 à minuit reculeront d'un coup à 20h45:52 le 13 décembre 1901. Pour épater la galerie dans un cocktail dînatoire, il est possible de résumer l'affaire en disant que le problème est lié au calcul binaire du temps dans un système à 32 bits. Les systèmes informatiques concernés sont, en gros, ceux qui reposent eux aussi sur certains systèmes 32 bits. Le professeur Baudry est sûr que le risque est minime car, comme en l'an 2000, le problème est identifié tôt. Les informaticiens auront le temps de trouver des solutions, comme faire migrer les vieux logiciels vers un modèle à 64 bits qui repousse l'échéance au 4 décembre de l'an 292 277 026 596. Avec 21 fois l'âge de l'univers devant soi, on aura le temps de voir venir, concluent les experts. Des systèmes à très haut risque. Et pourtant, on va probablement entendre parler du bug de l'an 2038 à nouveau au fil des 12 prochaines années, car il souligne la faiblesse de systèmes informatiques qui sont aujourd'hui au cœur du bon fonctionnement d'infrastructures critiques partout dans le monde, y compris au Québec, rappelle Benoît Baudry. On parlait déjà de ce bug au début des années 2000. Le fait qu'on en parle encore, c'est qu'il y a encore de vieux systèmes en opération, et c'est bien ça le problème. C'est sûr que Google et OpenAI ne vivront pas ce bug. Ils ont les moyens de s'ajuster, mais les organisations publiques... Le professeur montréalais cite les établissements de santé dont les systèmes informatiques sont désuets. On exige qu'ils numérisent le dossier de leurs patients, qu'ils adoptent l'intelligence artificielle, et pendant ce temps, un bug vieux de 68 ans menace certains de leurs services. Car ce bug pourrait toucher de nombreuses bases de données comme MySQL, sur laquelle repose la majorité des sites web actuellement en ligne. Le langage de programmation COBOL est aussi en 32 bits. C'est un vieux langage, mais encore très répandu dans les systèmes gouvernementaux au Québec et ailleurs. Le manque d'expertise en langage COBOL est ce qui a provoqué des ratés du système de paix provincial en 2023. Sur les sites d'emploi, des dizaines de postes au sein du gouvernement sont toujours affichés et demandent une expertise en COBOL. Ça touche le public, et c'est très embêtant si ce n'est pas corrigé, dit Benoît Baudry. Ça souligne l'importance d'avoir à l'interne une bonne expertise en informatique. Beaucoup d'organisations se sont massivement numérisées depuis 5 ou 10 ans, sans avoir la connaissance technique interne pour prendre les bonnes décisions. En 2021, le Time Magazine a revisité le bug de l'an 2000. Il a établi son coût pour les entreprises à 400 milliards US, au bas mot. Celles qui ont agi plus tard ont payé plus cher. Les 12 années qui nous séparent de 2038 peuvent sembler suffisantes pour corriger le problème, mais il est peut-être sage de s'y attaquer dès que possible, conclut Benoît Baudry. C'est probablement ce qu'il faut faire, car si on n'investit pas maintenant, ça va coûter plus cher plus tard. C'était « Le Québec est-il prêt pour l'apocalypse de 2038? » un texte d'Alain McKenna, paru le 22 avril 2026 dans la presse.
Pourquoi voit-on les roues tourner à l'envers? Un texte de Mathieu Perrault, paru le 5 avril 2026 dans la presse. Une lectrice, Jacqueline Laberge, demande « Qu'est-ce qui fait que quand une auto roule à une certaine vitesse, on a l'impression que les enjoliveurs de roues tournent à l'envers? » Cette illusion d'optique est probablement liée à la fréquence des oscillations entre les neurones dans une région du cerveau. Mais on comprend mal pourquoi elle survient différemment chez certaines personnes. Il y a un débat sur la question, dit Ruffin Van Rulen, neuroscientifique au CNRS à Toulouse, qui est l'un des chercheurs qui ont le plus publié sur la question. L'hypothèse de M. Van Rulen est qu'il y a un décalage entre deux ou trois systèmes d'analyse du mouvement dans le cerveau. M. Van Rulen avance que l'un de ces systèmes voit la réalité comme une caméra de cinéma, comme une succession d'images prises à intervalles. Ces intervalles correspondent à des oscillations d'ondes cérébrales. Au cinéma, le phénomène des roues qui tournent à l'envers est bien connu, justement parce que les caméras produisent une succession d'images, dit Caroline Boudou, spécialiste de l'optique à la Polytechnique Montréal. À une certaine vitesse, les images d'un film se dérouleront de manière à ce que le cerveau juge plus probable que la roue tourne à l'envers par rapport à la direction du mouvement de la voiture. On appelle cela l'effet de roue de chariot. Mais, dans le cerveau, on pense plutôt qu'il y a une vision en continu, dit Mme Boudou. C'est pour cette raison qu'il y a un débat sur cette illusion d'optique. Dans la vie réelle, elle ne survient pas 100 % du temps pour la même personne. C'est très difficile à reproduire en laboratoire. Alors, on n'a pas encore de réponse. M. Van Rulen, dont l'expertise est confirmée par Mme Boudou, ajoute une épaisseur de mystère à la question. Il explique qu'il existe deux ou trois systèmes de vision qui font appel à des mécanismes. Pour les déplacements très courts, en distance et en temps, il y a des neurones qui suivent le mouvement en continu, dit M. Van Rulen. Un deuxième système visuel suit les distances et les temps un peu plus longs. Ce système ne peut faire un suivi en continu parce que ça prendrait trop de neurones. Alors, il fait un échantillonnage, comme une caméra de cinéma. Cet échantillonnage suit les oscillations des ondes cérébrales. En concentrant son attention sur la suite d'images, il reconstruit le mouvement. Selon M. Van Rulen, l'effet de roue de chariot dans le monde réel survient quand le cerveau hésite entre le premier et le deuxième système visuel. Il précise que c'est une hypothèse, mais il n'en a pas entendu de meilleur. Un débat entoure l'existence d'un troisième système visuel qui serait cognitif. Avec ce troisième système, on ne suit pas le mouvement, mais on voit le même objet à des endroits différents quelques secondes plus tard et on déduit qu'il a dû y avoir un mouvement, dit M. Van Rulen. Quelle est l'hypothèse que retiennent les chercheurs rejetant l'idée que le deuxième système visuel fonctionne en continu et non en échantillonnage? Ils disent que c'est une question de fatigue, dit le chercheur toulousain. Quand le cerveau voit un mouvement vers la gauche pendant longtemps, à un certain point, il préfère que ça soit vers la droite. Le problème, selon M. Van Rulen, est qu'il s'agirait du seul exemple de ce genre de la fatigue dans les perceptions. Quand on regarde longtemps le rouge, les autres couleurs deviennent toutes un peu moins rouges et un peu plus vertes, c'est vrai. Mais à aucun moment, en fixant le rouge, on ne va finir par voir du vert. Peu de différences ont été observées entre les sexes et les âges, selon M. Van Rulen. Toutefois, il a été noté que les personnes âgées ont tendance à avoir cette illusion d'optique quand la roue tourne un peu moins vite que pour les jeunes. En savoir plus? 5 milliards, c'est le nombre de neurones du cortex visuel du cerveau. C'était « Pourquoi voit-on les roues tourner à l'envers? » un texte de Mathieu Perrault, paru le 5 avril 2026 dans la presse.
S'endetter pour manger, ce n'est pas normal. Un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 28 avril 2026 dans La Presse. On a beaucoup entendu parler des banques alimentaires qui ne fournissent plus à la demande. Mais la hausse du prix du panier d'épicerie force aussi une proportion alarmante de personnes à puiser dans leurs économies ou à emprunter pour se nourrir. Un ménage sur trois au Canada, 34%, se tourne vers ce type de stratégie financière pour manger à sa faim. Du moins, on espère que ces millions de personnes mangent à leur faim. Dans un pays comme le Canada, il n'est pas normal que l'alimentation soit devenue un enjeu budgétaire critique pour une proportion aussi vaste de citoyens. Cette expression, tout comme la statistique qu'elle décrit, provient du 4e indice de consommation alimentaire rédigé par le Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université Dalhousie. Depuis 5 ans, le prix des aliments a bondi de très exactement 29,6%. Dans une économie en forme de K, c'est insoutenable pour la partie de la population dont le pouvoir d'achat diminue constamment, la branche du K vers le bas. Pendant ce temps, les autres, la branche vers le haut, continuent de manger de l'agneau et du crabe puisque leurs maisons et leurs investissements en bourse prennent sans cesse de la valeur. C'est dire combien la nouvelle allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels tombe à point. Le premier versement est attendu le 5 juin. Plus généreuse que l'ancien crédit d'impôt pour la TPS, la prestation aidera 12,6 millions de personnes, soit environ 38% des adultes, à s'acheter l'essentiel. La branche inférieure du cas est plus charnue qu'on pourrait le croire. Résultat, devant les comptoirs remplis de viande, de fruits et de légumes plus ou moins abordables, les Canadiens modifient leur comportement. Les 3000 personnes sondées juste avant le début de la guerre en Iran, en février 2026, changent de magasin, de marque et de recette pour économiser. On laisse aussi tomber certaines considérations. La provenance, l'effet sur l'environnement, la responsabilité sociale, le goût. Bref, l'abordabilité est pratiquement devenue une obsession au détriment de tout le reste. Déprimant, n'est-ce pas? La proportion d'omnivores, ceux qui mangent de tout sans restriction, a fondu très rapidement, passant de 68% à 55% en seulement 18 mois. Le professeur Sylvain Charlebois, qui a coécrit le document, est aussi étonné que moi. Les omnivores à 55%, je n'ai jamais vu ça. C'est spectaculaire comme changement, s'étonne Sylvain Charlebois, co-auteur du 4e indice de consommation alimentaire. Quand le prix du bœuf fait les manchettes à répétition et quand une simple bavette marinée coûte 61 $ le kilo chez IGA, on cherche d'autres options. On réserve la viande rouge pour les occasions spéciales et on mange autre chose dans l'intervalle. Le nombre d'adeptes du flexitarisme a d'ailleurs doublé depuis l'automne 2024. Ce régime était alors suivi par 4,6 % de la population contre 9,4 % aujourd'hui. Curieusement, ceux qui décident de s'alimenter comme à l'époque paléolithique, viande, poisson, fruits et légumes, aucun produit laitier ni céréales, sont également plus nombreux, de 4,3 % à 7,6 %. Ça ressemble à un paradoxe que je m'explique mal et ce n'est pas le seul dans le document. Le plus évident, les consommateurs surestiment les hausses de prix et sous-estiment leurs dépenses. Depuis un an, le coût du panier d'épicerie a augmenté de 4 %. Mais la moitié des Canadiens croient avoir subi un bond de plus de 8 %. Du lot, 30 % croient que la hausse est supérieure à 10 %. Ce n'est pas impossible que ça arrive, remarquez. La dernière fois, c'était en février 2023. Malgré ces hausses présumées, on semble oublier les montants sur nos factures. Les sondés évaluent que leur ménage dépense, en moyenne, 520 $ par mois pour se nourrir, soit 412 $ à l'épicerie et 108 $ au restaurant. cela équivaut à 6 240 $ par année. Ce montant est nettement inférieur au calcul de Statistique Canada. Selon les données officielles, le coût annuel par personne est supérieur à 4 000 ce qui donne plus de 11 000 pour le ménage moyen. Certains n'y verront pas un paradoxe, mais plutôt des biais de perception classiques, un mécanisme de protection, voire une négligence à bien suivre ses dépenses. C'est un peu tout ça, j'imagine. Pour terminer sur les perceptions, j'ai été étonné par une donnée sur la livraison d'épicerie. Devinez quel groupe d'âge est le champion du panier virtuel? Les 80 ans et plus. Dans le mois précédent le sondage, 25,4% de la génération silencieuse s'était fait livrer ses courses. C'est plus que les milléniaux accros au techno, 24%, les boomers, 9%, et les X, 12,5%. Voilà un usage brillant de la technologie, quand la mobilité, la maladie ou simplement l'hiver transforment les emplettes en épreuves olympiques. Le clic devient alors synonyme de liberté, encore plus si on a les moyens de sélectionner les aliments qu'on préfère. C'était « S'endetter pour manger, ce n'est pas normal », un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 28 avril 2026 dans La Presse.
Vous me trouvez étrange, c'est réciproque. Un texte de Michaël Bergeron, publié le 21 avril 2026 dans La Tribune. On recule de quelques années, dans un monde qui n'avait pas encore connu la pandémie, en 2019. Ève Bonin travaille alors à la radio de Windsor. Au menu de ses émissions ce jour-là, la neurodiversité, terme qu'elle n'a jamais entendu. C'est après cette entrevue que l'invité a lâché la phrase qui a tout déclenché. À ce moment-là, ses connaissances sur l'autisme n'allaient pas plus loin que l'image caricaturale que la plupart des gens ont. Elle croyait aussi que ça ne touchait que les gars. Les femmes sont sous-diagnostiquées pour plusieurs mauvaises raisons. Sur le coup, j'ai pris ça avec un certain scepticisme, mais elle m'a envoyé des ressources, raconte la Sherbrookeoise. Puis, ce n'était pas de la psychopop, là, c'était du sérieux. J'ai regardé en mode ouverture d'esprit. Dans le lot, il y avait une liste de traits et je n'ai pas été capable de passer à travers du premier coup. Au début, elle trouvait ça drôle de se reconnaître dans tout, c'en était absurde. Mais plus ça avançait, plus j'étais bouleversée, j'étais en train de lire ma vie avec des affaires que je n'aurais pas nécessairement associées à ma conception de l'autisme. Ça m'a vraiment bouleversée. Ça m'a pris 3 ou 4 jours à réussir à passer à travers la liste. Après les rires et le choc, la tristesse et la colère ont suivi. Un gros mélange d'émotions. Contente de se reconnaître, oui, mais triste de le découvrir si tardivement dans sa vie, fâchée de repenser à toutes les souffrances et les traumatismes qu'elle aurait pu éviter si elle avait su avant. En 2019, l'autisme est devenu son sujet préféré de l'univers. Se passionner pour un sujet est une autre caractéristique que je ne connaissais pas, mais j'ai toujours été comme ça. Il aura tout de même fallu attendre 2026, à 51 ans, pour qu'un diagnostic vienne confirmer ce qui lui semblait une évidence. On m'a dit pendant des années que c'est carrément impossible d'avoir un diagnostic au public pour un adulte, dit-elle, surprise, mais satisfaite d'avoir pu être une exception. Ève Bonin a bien failli, elle aussi, frapper le même mur. Après en avoir parlé à son médecin, elle a été référée à un psychiatre en 2020. En moins de 15 minutes, celui-ci a invalidé ses soupçons. Sur le coup, je l'ai cru, mais ça, c'était avant de lire des dizaines et des dizaines de témoignages de gens qui ont vécu la même chose avant d'avoir un diagnostic. Selon une étude de l'Université de Sherbrooke, plus de 3 femmes sur 4 qui finissent par avoir un diagnostic du spectre de l'autisme sont passées en premier par un verdict d'invalidation par un psychiatre. C'est à la fois énorme et cruel. Réussir à se glisser sur une liste d'attente au public relève déjà du miracle. Les listes sont souvent pleines. L'attente peut prendre 2 années. Au privé, il faut être capable de débourser 2 000 $, peut-être plus. Mais en plus, même lorsqu'on réussit à s'insérer dans une liste d'attente, il faut répondre à 2 critères. Avoir un proche encore vivant pour témoigner de l'enfance et qu'aucun professionnel de la santé n'ait invalidé l'hypothèse autistique. Oups, pour Ève Bonin, mais aussi pour bien des femmes qui se font rejeter du processus sans réel test. Ce qui a beaucoup aidé Ève Bonin, c'est un groupe de discussion de femmes autistes. Grâce aux échanges, elle a appris, s'est sentie validée, soutenue. Elle s'est reconnue surtout. Ce soutien l'a poussée à persévérer. Avec moult péripéties, le soutien d'une travailleuse sociale et un peu d'obstinage avec la bureaucratie, elle a fini par obtenir son diagnostic. Elle a même réussi à corriger une incohérence dans le processus. Le CIUS ajoutait des gens sur les listes d'attente sans vérifier s'ils répondaient aux critères d'admissibilité. On peut-tu envoyer un mémo au médecin ou au psychiatre qu'une personne autiste peut regarder dans les yeux? Même si elle a réussi à obtenir son diagnostic, après des années d'attente et de lutte, Ève Bonin juge que le système de santé n'est pas adapté ni à jour. Et si les professionnels de la santé ont encore des préjugés, la population générale n'en a pas moins. Un des gros enjeux, c'est que les personnes comme Ève, qui n'ont jamais pensé être sur le spectre de l'autisme, au lieu d'être capables d'expliquer leurs différences et leurs décalages, performent un semblant de normalité, ce qui vient invisibiliser l'autisme. Ève Bonin évoque, par exemple, un documentaire vu au secondaire qui disait que les gens qui ne regardaient pas dans les yeux étaient des menteurs. Alors elle s'est mise à regarder dans les yeux, même si ce n'était pas confortable. En classe, elle regardait le plafond pour répondre à ses professeurs, ce qui créait la moquerie des camarades de classe. Elle s'est donc forcée pour ne plus faire ça. Toute sa vie, elle s'est aussi retenue de fermer les yeux devant les gens pour réfléchir, même si ça l'aide. Il y a un mot pour ça, le masquage. Les personnes sur le spectre de l'autisme vont copier et imiter les comportements considérés normaux afin de s'intégrer et de subir moins de jugements. On travaille super fort pour s'intégrer, mais parce qu'on fait ça, on n'est pas cru, déplore-t-elle. Là, en ce moment, je suis capable de te parler de tout ça, mais ce qu'on ne voit pas, c'est que ça fait des jours que je pratique la discussion dans ma tête et que je n'ai prévu aucune activité sociale pour les prochains jours pour pouvoir te parler. Et quand ça fait des décennies qu'on copie ou intègre une façon de faire, ça peut devenir flou de départager quel comportement est naturel et lequel est du masquage, ce costume enfilé en public pour passer inaperçu. Présentement, je suis comme en train de faire le tri entre mon personnage public et Ève sans masquage. Mais j'ai 51 ans de personnage, c'est compliqué, raconte-t-elle. Je me suis toujours sentie comme une extraterrestre à part. Vous me trouvez étrange? Sachez que c'est réciproque. On vous trouve aussi étrange. Elle dira qu'elle se sent « lost in translation ». Le sens des comportements et des mots se perd dans la transmission, une traduction qui ne fonctionne pas tout à fait entre 2 cultures. Comme bien du monde qui a un diagnostic tardif, Ève Bonin a subi son lot de revers. Relations amoureuses, amicales, familiales, professionnelles, toutes les sphères de sa vie ont connu des obstacles, sans comprendre pourquoi. C'est un peu la motivation pour cette entrevue, confie-t-elle. Je crois au pouvoir de la représentation et j'aimerais que les femmes plus jeunes que moi n'en arrachent pas comme moi. Ève Bonin veut que les choses changent, que la société comprenne mieux l'autisme pour diminuer les souffrances individuelles avant tout, mais d'un point de vue collectif aussi, parce que la société se prive de talent. Pour en apprendre plus, des suggestions d'Ève Bonin. Les différences invisibles, livre de Monde-Neveu Villeneuve, de la collection Radar des éditions Éco-Société. Grâce au format, l'information est présentée de façon à favoriser la vulgarisation, facile à lire, parfait pour découvrir l'ABC des cerveaux différents. Femme caméléon, livre de Mélissa Perron, publié par K.O. Éditions. L'autrice raconte son histoire et de sa découverte autistique à 38 ans avec de magnifiques illustrations. Ce n'est pas un livre sur l'autisme, mais sur la réalité d'une personne autiste. L'autisme expliqué aux non-autistes. Livre de Brigitte Harrison et Lise Saint-Charles, en collaboration avec Kim Thuy, publié aux éditions Trécarré. Écrit par les fondatrices de SACAD, C-A-C-C-A-D-E, un centre d'expertise sur l'autisme à Québec. Une cinquantaine de notions sont présentées sous la forme de questions et réponses. BE Neuroatypique, chaîne YouTube d'un intervenant psychosocial spécialisé dans le TDAH et l'autisme, ayant lui-même ces deux conditions. Bleuet Atypique, site web et réseaux sociaux, propose aussi un guide de préparation au diagnostic. Le groupe Facebook Autisme au féminin, Québec, un groupe qui permet de jaser avec d'autres femmes autistes, de valider les expériences et d'obtenir des références pour diverses ressources, sans jugement et avec empathie. C'était « Vous me trouvez étrange, c'est réciproque », un texte de Michaël Bergeron publié le 21 avril 2026 dans La Tribune.